Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 en notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en rappelant, en apprenant que 24 en notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant un peu plus d'un siècle, comme par exemple en 1962 dans Le Diamant sur canapé de Blake Edwards, une musique de Henry Mancini, une chanson Moon River qui nous sert de générique, c'est bien pour ça que je la mentionne, et qui est inconnue à l'époque et connaît toujours un succès absolument considérable. De Blake Edwards, d'Audrey Byrne, de femmes et autres, il ne sera guère question dans l'émission de ce jour, puisque nous allons évoquer quelques figures, si l'on peut dire, de robots. Et oui, quelques films avec des robots, ma foi. On a les thématiques qu'on peut, et voilà un thème qu'on retrouve bien évidemment dans le cinéma de science-fiction, a priori, qui dit robot, sauf si vous avez un aspirateur machiavélique dans votre salon. Qui dit robot, dit plutôt au cinéma science-fiction. Eh bien, on retrouve le robot décliné de manière très différente au fil des ans. Et nous allons égrener quelques films des années 50 pour commencer, mais plutôt 70 et 80 pour terminer. Et les années 50, eh bien, ce fut l'occasion, pendant la guerre froide, d'un grand nombre de films où l'on voyait des extraterrestres, comment dire, rouges ou ce genre de choses. En tout cas, le cinéma de science-fiction était l'occasion d'exercer sur un terrain autre que politique des thématiques de peur. Et si je le mentionne, c'est que le film dont nous allons écouter un extrait de la bande originale se situait tout à fait à l'opposé, puisqu'on nous voyait au contraire des extraterrestres, eh bien tout simplement plus intelligents que nous. Vous me direz, c'est pas très facile, mais en l'espèce, on ne le voit peu au cinéma. C'était le cas en 1951. Mais dans quel film, cher chroniqueur? Mais oui, j'y viens. Le jour où la Terre s'arrêta, The Day the Earth Stood Still, un film de Robert Wise, fort intelligemment scénarisé par Edmund North, et qui racontait l'histoire donc de l'arrivée d'une soucoupe volante qui se pose à Washington, bien sûr. On est aux États-Unis, donc les extraterrestres vont d'abord aux États-Unis. En sorte, eh bien, à la fois un homme semblable au terrien, Klaatu, et aussi un robot aux dimensions colossales qui s'appelle tout simplement, de son petit nom, Gort, et dont ma petite fiche m'indique qu'il fut joué, évidemment non pas par un vrai robot, mais par un vrai humain, en l'espèce un portier du Chinese Theater, un lieu bien connu des amateurs de cinéma hollywoodien à Los Angeles, qui mesurait plus de 2 mètres de haut et qui revêtait en l'espèce un costume de mousse et de caoutchouc qui faisait son petit effet, je peux vous le dire, surtout quand il était aux côtés de Sam Jaffe, un acteur un acteur intelligent, mais plutôt petit, et qui, dans le film, jouait un rôle que d'aucuns se sont plus à comparer à celui d'Einstein, celui du savant qui dénonce les méfaits du progrès inconsidéré de la civilisation humaine et des dangers qu'il peut faire peser tout à la fois sur notre planète, mais de ça, les extraterrestres s'en moquent, mais aussi sur le reste du système solaire et au-delà. C'est pourquoi ils viennent nous avertir que si ça continue comme ça, eh bien, ça finira. Comme disait je ne sais plus qui, nous étions en 1951 déjà. Bref, comme quoi on ne tire pas toujours, et c'est bien dommage, les leçons des films de science-fiction. Je voulais quand même indiquer que le dénommé Klaatu était joué par Michael Rennie, un acteur estimable qu'on vit tout au long des années 50, et surtout, que c'était la délicieuse Patricia Neal qui était la femme du jour, et là, comme quoi il y a des connexions entre tout, Patricia Neal, on la retrouvera justement 10 ans plus tard dans Le Diamant sur canapé évoqué tout à l'heure. J'adore ce genre de connexion. Allez, place à la musique, on va s'écouter un extrait large de la bande originale de ce film. Elle était signée de Bernard Herrmann, plus connu pour ses collaborations avec Alfred Hitchcock, mais qui collabora à bon nombre de films fantastiques ou de science-fiction. Il me semble que nous consacrions une émission entière à cette œuvre fantastique de Bernard Herrmann. Nous avions peut-être passé cet extrait, les plus fidèles s'en souviendront, les autres le découvriront là maintenant tout de suite sur Divergence FM.
Thank you.
Voilà deux extraits bien différents de la bande originale d'un même film. En l'espèce, Le jour où la Terre s'arrêta, un film de Robert Wise tourné en 1951. Une musique de Bernard Mann avec des effets sonores ou musicaux, je ne sais trop. À mon avis, quelque chose comme des effets spéciaux sonores des années 50, tout à fait étranges, qui rappellent que Bernard Mann fut aussi un grand expérimentateur en matière de musique qui nous ont permis d'évoquer notre thème de ce jour avec un robot, en l'espèce le dénommé Gort, joué par Locke Martin. Il fallait quand même lui rendre cette grâce à un robot, disons, relativement mutique et relativement peu expressif. À un moment, eh bien, il déverse des flots de lasers sur une foule et surtout sur les soldats, parce qu'il n'aime pas beaucoup les soldats Gort, mais à part ça, on ne l'entend guère. Ce n'est pas le cas, chacun dans leur genre, des héros robots du film que nous allons maintenant évoquer. Alors, on ne pouvait difficilement ne pas passer par eux en parlant de robots au cinéma, de la même manière qu'on pouvait difficilement se passer de la guerre des étoiles quand on voulait évoquer la science-fiction au cinéma. Et c'est bien évidemment des deux robots C3P0 et R2D2 qu'il s'agit, qui sont à leur manière eh bien, les héros principaux des 6 épisodes de la saga, même si il y aura beaucoup de débats sur le fait qu'il y ait vraiment deux trilogies, et avec les qualités respectives de chacune d'entre elles. Je ne me prononcerai pas, mais mon âge me fera très largement créditer d'une préférence pour une que vous devinerez aisément. Bref, quelques petits mots donc sur nos deux robots favoris pour dire que d'après les sources dans lesquelles j'ai puisé, ils furent inspirés tout à la fois par Laurel et Hardy, auxquels de fait ils font souvent penser, et aussi, plus intellectuel, par les deux paysans héros d'un film d'Akira Kurosawa, en l'espèce La forteresse cachée. Mais s'agissant de George Lucas, on peut se douter que l'homme avait des lettres et connaissait certainement très très bien l'œuvre d'Akira Kurosawa. Alors apparemment, R2-D2 a été construit par Anakin Skywalker à partir de pièces détachées. Et au départ, il aidait C3P0. Certainement, les grands fans ont rectifié. C3P0 a été construit par Anakin à partir de pièces détachées. Et il rencontre R2-D2, bien évidemment, sur la planète Tatooine, on dit comme on veut, de nos débuts. D'aucuns prétendent que, si le duo est inspiré de Laurel et Hardy, C3PO lui-même est inspiré du fameux robot. J'aurais d'ailleurs pu vous passer un extrait de la bande originale reconstituée de ce film, du fameux robot Maria que l'on voyait dans le Métropolis de Fritz Lang. Sauf que Maria, comme son nom l'indique, est féminin, alors que C3PO est définitivement masculin, puisque derrière cette ferraille qui parle beaucoup se cache un acteur dont j'essaie désespérément, voilà, j'y suis, de retrouver le nom, en l'espèce Anthony Daniels. Quant à R2-D2, eh bien lui, il parle, disons, plus difficilement, avec des sifflements que d'une certaine manière on arrive relativement à bien interpréter, ce qui fait bien dire que toutes les formes de communication se valent et que le langage articulé n'est pas forcément la meilleure d'entre elles. Il est vrai cependant que R2-D2 est quand même plus limité et dans ses expressions et dans ses capacités à communiquer. J'ai sous les yeux la photo d'un R2-D2 transformé en boîte aux lettres, comme quoi on pouvait faire un peu tout et un porno. Peu n'importe quoi avec les héros, en tout cas les seuls qu'on voit dans les 6 épisodes de la saga. Quant à R2-D2, lui, il était interprété, si l'on veut, par un acteur de petite taille, on va dire, appelé Kenny Baker. Voilà, vous avez tout sur R2-D2 et C3PO, ou presque. Je n'ai pas évoqué la guerre des étoiles, j'en dirais peut-être 2 mots après avoir écouté un large extrait de cette bande originale, mais on pouvait difficilement se passer de ne pas écouter ça.
Thank you.
on ne s'en lasse pas, un extrait, le générique évidemment, il y a très très longtemps, dans une très très lointaine galaxie, de la bande originale de La Guerre des Étoiles, un film de George Lucas tourné en 1977, et je ne suis même pas sûr d'avoir mentionné que c'était l'immense, l'incontournable, l'immortel désormais John Williams qui avait signé la bande originale de ce film, comme il a signé d'ailleurs la bande originale des 5 suivants, La Guerre des Étoiles, donc qui était la première occasion de voir à l'écran nos deux petits robots, allais-je dire. C3P0 était quand même relativement grand, et R2D2, les robots auxquels nous consacrons cette émission de 24 notes secondes de ce jour. Alors je voulais aussi attribuer à ceux auxquels en revient le mérite la création donc de l'Android C3P0. Android, c'est un robot qui ressemble à un être humain, réalisé donc par l'illustrateur Ralph McQuarty, le décorateur Norman Reynolds et le sculpteur Liz Moore, pour une carapace brillante de plastique, de caoutchouc, de laine, de verre, d'acier et d'aluminium de 20 kg. Avec donc à l'intérieur un mime, je l'ignorais, Anthony Daniels, déjà cité. Eh bien, quant à R2-D2, il mesure à peu près 1m20 et il est habité, c'est un joli mot, par le nain, donc par la personne de petite taille, Kenny Baker, 1m10. Allez, un petit coucou aussi, même si c'est pas un robot, bien loin de là, à notre cher chouchou Chewbacca, alias le comédien Peter Mayhew, 2m15 quand même. Chouchou, on t'aime aussi. Voilà, les robots de ce jour, et comme dernier avatar, si je puis dire, de ce genre, eh bien, nous allons évoquer un film de Steven Spielberg, tourné en quelque part dans les années 90, mais je m'y perds dans mes petites fiches, je vous dirai ça tout à l'heure. Un film de Steven Spielberg pour un scénario qui, d'après ce qu'on peut en savoir, avait tenté Stanley Kubrick, qui n'avait pas pu mener à terme ce projet, où l'on voit un couple qui vient de perdre son jeune garçon, eh bien, adopté, acheté, on ne sait pas trop, un jeune robot qui lui ressemble beaucoup, et donc s'établit entre ce robot évidemment extrêmement évolué et les deux, ses parents, entre guillemets, il y a une relation relativement trouble qui permet dans un premier temps à Steven Spielberg de proposer une réflexion relativement intelligente sur les rapports entre l'âme et la machine, etc., etc., avant que le dit petit robot chassé par ses parents adoptifs, puisque leur fils est revenu à la vie, nous sommes dans la science-fiction, je vous le rappelle, avant que le petit robot se lance aux côtés d'un autre robot dont le nom est Gigolo Joe, tout un programme interprété par le subtil élégant Jude Law, dans une sorte de course à la reconnaissance humaine, à fois un peu improbable, un peu naïve, un peu candide, et qui à l'époque n'avait séduit ni les critiques ni les foules, puisque Steven Spielberg aussi a connu quelques échecs commerciaux et que, à ma connaissance, 2001, j'aurais pu y penser, le film est sorti en 2001, à ma connaissance, donc c'est un des rares échecs commerciaux d'un film dont pourtant les effets spéciaux étaient tout à fait époustouflants, même si je l'ai appris en lisant ma petite fiche, on avait dans un premier temps penser à fabriquer justement un robot pour interpréter le rôle du petit garçon avant de le confier au jeune Alec Joel Osment qui fut, si je ne m'abuse, celui qui disait « Je vois des gens morts » dans Sixième Sens avec Bruce Willis. Bref, une histoire inspirée d'une nouvelle de Brian Aldiss au titre relativement poétique « Les Super Toys, you naughty boy » dure tout l'été de Brian Aldiss, un auteur de science-fiction connu peut-être des amateurs pour Le Monde Vert, pour une adaptation donc dans un premier temps confiée à Stanley Kubrick, dans un second temps à Steven Spielberg. L'ensemble n'était peut-être pas le meilleur film du susdit, ce n'était peut-être pas non plus, puisqu'on vient d'écouter La Guerre des Étoiles, la meilleure musique de John Williams, mais par contre c'est une partition relativement subtile et du coup passée relativement inaperçue, et on va s'en écouter en matière de revanche, eh bien un très très large extrait dans 24 notes, secondes, divergence, FM, lancé, morceau. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.
Ça tourne.
Divergence FM.